grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse en direct en podcast. Loup, y es-tu ? Gare au loup, si tu n'es pas sage, le loup va venir te manger. La peur du loup reste encore vivace chez les enfants, une frayeur qui prend racine dans un imaginaire où se mêlent légendes, mythes, images et symboles. Coup de projecteur sur un animal redouté, détesté, très présent dans les contes et fables pour enfants, les histoires de loup-garou, les expressions du quotidien, marcher à pas de loup, se jeter dans la gueule du loup, quand on parle du loup. Qu'est-ce que le loup raconte de nos sociétés à travers les époques ? Le grand méchant loup effraie-t-il encore les enfants ? Pourquoi le craint-on encore quand on se promène en forêt ou en montagne ? Pourquoi son retour naturel ou sa réintroduction artificielle en Europe suscite de violentes polémiques ? Sachez que la France compte environ 430 loups contre 15 à 20 000 à la fin du 18e siècle. Et puis nous verrons quelles sont les qualités de cet animal qui ressemble beaucoup au chien sur un plan physique et génétique. Et au fil des siècles, on le verra, le loup est devenu chez ses défenseurs une espèce à protéger, parée de toutes les vertus. Avec nous ce matin, le grand historien Michel Pastoureau et la psychologue clinicienne Béatrice Copper-Royer, sans oublier le regard pertinent de Marie-Laure Zunshein. De femme actuelle, racontez-nous vos peurs du loup, réelles ou imaginaires. Dites-nous également si vous avez déjà croisé un loup. Êtes-vous favorable à sa réintroduction ? Standard ouvert au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Jeune loup de la philosophie, connu comme le loup blanc. Vous remplacez cette semaine notre camarade Christophe André. Ouais. Que vous inspire notre thème du jour ?
Un trouble quant à la distinction assez compliquée à trouver entre le réel et l'imaginaire.
A tout à l'heure Charles Pépin, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
M'entends-tu ? Que fais-tu ?
Je mets ma chemise.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loup, où es-tu ? M'entends-tu ? Que fais-tu ?
Je mets mes lunettes.
Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Grand historien français, spécialiste reconnu des couleurs, mais également des animaux. Vous publiez aux éditions du Seuil un ouvrage merveilleux, Le loup, une histoire culturelle. Bonjour Béatrice Copper-Royer.
Bonjour.
Psychologue clinicienne, spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. Vous avez notamment publié au livre de poche Peur du loup, peur de tout, avec une couverture assez terrifiante. Michel Pastoureau, le Robert nous dit que le loup est un mammifère sauvage qui ressemble à un grand chien. Quand on parle du loup, on parle avant tout du loup gris, hein. Canis lupus, hein, c'est ça hein.
Oui, dans l'hémisphère nord, on parle des loups qui sont présents sur nos terroirs. Moi, je m'intéresse à l'histoire des animaux, à l'histoire culturelle des animaux dans les sociétés européennes, parce que les problèmes dont je m'occupe, les rapports entre l'homme et l'animal, sont d'abord des problèmes de société. Et donc, pour bien en parler, il faut connaître les sociétés concernées. Évidemment, l'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète.
Alors, chaque société construit son imaginaire du monde animal autour d'un petit groupe d'espèces. Hein, en Europe, l'ours, le corbeau, l'aigle, l'agneau et bien sûr le loup.
Voilà, oui, je pense qu'il y a dans, sinon toutes, beaucoup de sociétés, ce que j'appelle un bestiaire central, c'est-à-dire un petit groupe d'animaux qui en effet, dans les représentations, les symboles, l'imaginaire, comptent plus que les autres. Il me semble qu'il y a une dizaine, une douzaine d'espèces dans les sociétés européennes, et quelques vedettes, l'ours bien sûr, le corbeau, sont sans doute les deux vedettes, sanglier, le cerf et le loup qui fait partie de ce bestiaire central. Chez les domestiques, sans doute le taureau, le cheval, le chien, quelques autres, même un animal qui n'est pas indigène en Europe, le lion. On peut le mettre dans ce bestiaire central européen parce qu'il fait presque partie de notre vie quotidienne depuis des temps très très anciens.
Qu'est-ce qui vous passionne dans l'histoire du loup ?
Ce qui me passionne, c'est que, en tant qu'historien, j'ai affaire à des documents extrêmement nombreux. Ça n'est pas le cas de tous les animaux. On parle du loup depuis une antiquité très reculée, jusqu'à aujourd'hui. Donc l'historien a plutôt trop de documents que pas assez. J'ai rencontré d'ailleurs cette même abondance pour l'ours. Ce sont deux animaux qui laissent dans la longue durée des traces dans l'imaginaire qui sont très très importantes. Donc c'est vrai que c'est plus facile de travailler, bien sûr, sur le loup, qui est un animal ambivalent, comme tous les animaux. Du point de vue symbolique, il y a toujours des bons et des mauvais côtés, mais chez le loup, les mauvais côtés sont nettement plus importants
que
les
bons côtés. Et oui, c'est un fauve qui fut à la fois admiré et combattu. Et pourquoi l'image du loup est plus négative que celle de l'ours ?
Elle est plus négative, en effet. On reproche au loup d'être plus cruel que l'ours, d'être lâche, d'attaquer en groupe et pas tout seul, de manger plus qu'il n'a besoin pour assouvir sa faim, d'être rusé, d'avancer à pas de loup, on ne le voit pas venir. Bref, il est couvert d'adjectifs qui sont tous péjoratifs, sinon depuis l'Antiquité, en tout cas depuis le Moyen-Âge.
À quand remonte d'ailleurs la peur du loup ?
Alors cette peur du loup, elle va, elle vient en Europe au fil du temps. Elle est peu présente dans l'Antiquité gréco-romaine. Le loup est dangereux pour le bétail, bien sûr, mais pas tellement pour les hommes et les femmes, ni les enfants. Elle arrive au haut Moyen-Âge, quand tout se disloque, il n'y a plus d'empire romain, la forêt regagne du terrain, l'Occident est parcellisé, donc tout le monde a faim. En plus, le climat se dégrade, les loups ont faim, s'approchent des villages. Puis après l'an 1000, ça va mieux, le climat est favorable, l'expansion est démographique et économique, les loups ne semblent plus avoir faim. C'est l'époque du roman de Renard, par exemple, où on se moque du loup, qui est un animal ridicule. Et cette peur du loup revient à la fin du Moyen-Âge, et surtout au début de l'époque moderne, et va durer jusqu'en plein 19e siècle. C'est la grande période, fin 15e siècle, milieu 19e siècle, de la peur du loup en Europe.
Et oui, c'est un animal malfaisant, vous le disiez, lâche, cruel, rusé, à l'image du diable. Et sa proie préférée, c'est l'agneau.
Oui, bien sûr, il y a un contraste entre le loup et l'agneau. La fable, d'ailleurs, existe depuis Ésope. Elle vient de très très loin. Ça finit très mal. Hein. L'agneau est dévoré par le loup. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous dit La Fontaine. C'est un bel enseignement, si je puis dire. Et donc, il y a un contraste entre l'animal qui est la pureté, l'innocence, la virginité même, et puis la bête sauvage, cruelle et redoutable.
Alors, le loup se délecte de la chair de l'agneau, mais il est réputé aimer également la chair humaine, et en particulier la chair des jeunes enfants. On se souvient évidemment du petit chaperon rouge.
Voilà, ça finit très mal dans la version de Perrault. À la fin du XVIIe siècle, le loup dévore et la fillette et la grand-mère. Chez les frères Grimm, au début du XIXe siècle, ça finit mieux. Un gentil chasseur arrive qui tue le loup, ouvre le ventre, et miraculeusement, la fillette et la grand-mère sont encore vivantes.
Béatrice Coppère-Royer, pourquoi le loup cristallise-t-il les peurs enfantines ? Et est-ce qu'avoir peur du loup, c'est une étape essentielle dans la construction d'un enfant ?
L'angoisse fait partie du développement de l'enfant et cette étape de peur comme ça du loup, comme par exemple aussi des cambrioleurs, des voleurs, etc., fait partie vraiment intégrante du développement de l'enfant et donc c'est absolument pas pathologique. Et c'est intéressant parce qu'à partir du moment où l'enfant commence à parler, il va exprimer son besoin de sécurité intense et donc ses peurs. Et la peur du loup qui lui est contée aussi à travers ces merveilleuses histoires qui sont là aussi pour lui faire apprivoiser ses peurs. Parce que l'enfant adore qu'on lui répète des histoires qui font peur pour justement, tranquillement assis sur les genoux de sa maman ou de quelqu'un d'autre, lui permettre d'apprivoiser comme ça les scénarios qui lui font très peur.
On y reviendra tout à l'heure, mais j'ai l'impression que chez les enfants d'aujourd'hui, la peur du loup est nettement moins puissante qu'autrefois.
Oui, parce que en plus de ça, dans la littérature jeunesse contemporaine, le loup, il est plutôt ridicule maintenant. Hein. Il est plus aussi vorace, féroce, imprévisible et méchant. Il est celui qui se fait avoir, hein, qui est un petit peu ridicule de temps en temps.
Michel Pastoureau.
Oui, cette pas disparition, mais raréfaction de la peur du loup, au vrai dans la vie des campagnes et dans l'imaginaire, dans le livre pour enfants, dans la bande dessinée, ça date du début du XXe siècle. Le loup se revalorise, il fait moins peur. Et aujourd'hui, on a des très gentils loups dans la littérature pour enfants. On inverse les histoires, les trois méchants petits cochons et le grand gentil loup, de choses comme ça. C'est vraiment une revalorisation et les polémiques autour de la réapparition font partie partie de ce dossier.
Marie-Laure Zonshein de Femmes Actuelles.
Oui, Michel Pastoureau, vous l'avez évoqué, on va y revenir évidemment. L'image du loup, si on peut dire, parler d'image, évolue au fil des siècles, on vient de le dire à l'instant. Il est réhabilité dans la littérature jeunesse énormément. Est-ce que vous diriez que ça y est, cette fois c'est définitif, vous sortirez votre livre en 2123, le prochain, et vous nous direz dans les années 2020, bah ça y est, c'était un tournant, plus jamais le loup ne fit peur aux enfants.
Non, ça ne marche jamais comme ça en histoire. L'historien sait bien qu'il a affaire à des mouvements de balancier, de très longue durée parfois, de durée plus courte d'autres fois. Mais rien n'est jamais gagné, ça va, ça vient. L'espérance de vie, par exemple, on pourrait penser qu'elle ne fait que monter. Pas du tout, elle va, elle vient au fil de l'histoire. On vit beaucoup plus longtemps sous Saint-Louis que sous Louis XIV en Europe. Donc tout est comme ça en histoire, des mouvements de balancier, avec des rythmes longs entrecoupés par des rythmes plus courts.
Charles Pépin.
Oui, je me posais une question en vous écoutant, étant dit que me remontaient toutes ces histoires que j'ai racontées à mes enfants, mais je suis rassuré d'apprendre que c'est bien de leur faire peur. Mais quand même, je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas tellement d'usage du loup en philosophie. Il y a beaucoup d'animaux qui sont très utilisés par les philosophes pour dire des choses, hein, la chouette de Minerve, la ruse du renard pour le prince, etc. Mais étrangement, les philosophes n'ont pas beaucoup usé du loup pour dire des choses aux hommes. Pourquoi, selon vous ?
La psychanalyse, quand même,
oui,
a beaucoup provoqué le loup.
Évidemment.
L'homme est un loup pour l'homme.
L'homme est un loup pour l'homme. L'adage vient de très loin. La plus ancienne attestation est chez Plaute, sous la République, trois siècles avant l'Empire romain. Oui, ça vient de très très loin. Peut-être que le loup fait-il peur aux philosophes, il faudra s'interroger.
Bonjour Annick.
Bonjour.
Fidèle auditrice du Poitou. Est-ce que vous avez peur du loup, vous ? Est-ce que vous avez peur du loup ?
Ah non, pas du tout.
Et il paraît que vous les aimez bien, les loups, Annick.
Oui, moi j'aime bien les loups. Je trouve qu'ils sont fascinants, mystérieux. Je trouve qu'ils sont beaux.
Vous en avez croisé ou pas ? Vous en avez croisé ?
Non, mais j'aimerais bien.
Alors, est-ce que vous racontez des histoires de loups à vos enfants ou à vos petits-enfants ?
Oui, mais plutôt des loups gentils, parce que je trouve que... ils vivent un petit peu en société comme nous et que il faut montrer aux enfants que le loup, c'est un animal comme les autres.
Et est-ce que vous jouez au loup avec vos petits-enfants ? Est-ce qu'ils ont peur du loup d'ailleurs ?
Non. Pardon ?
Est-ce qu'ils ont peur du loup, vos petits-enfants ? Est-ce que vous jouez au loup avec eux ?
Non, je pense pas. Je pense pas parce que je pense qu'on leur a montré une image et... Pas du tout méchante.
Merci beaucoup, Annick, de nous avoir appelé. Laure nous dit sur notre page Facebook, la peur du loup m'évoque l'appel de la forêt et Cro-Blanc, en film que j'ai vu petite et qui a bien alimenté le mythe avec ses scènes d'attaque. Michel Pastoureau.
Oui,
Cro-Blanc de
Cro-Blanc,
de
Jack London. C'est une créature intermédiaire entre le loup et le chien qui ne trouve pas sa place ni chez les loups ni chez les chiens. Donc il y a évidemment une leçon, comment dirais-je, de vie, ne pas trouver sa place. On a beaucoup d'histoires comme cela qui viennent de très très loin, de créatures intermédiaires nées de l'accouplement de telle espèce animale avec telle autre, voire d'un animal avec un humain. Pour le loup, il n'y en a pas beaucoup. Pour l'ours, il y en a énormément.
Quelles sont les qualités du loup qui ressemblent beaucoup génétiquement au chien ?
Alors, moi, je m'occupe surtout du symbolique
bien
et de
sûr.
L'imaginaire. Mais l'imaginaire, évidemment, c'est pas le contraire de la réalité. C'est une réalité d'une autre sorte. Ces qualités qu'on lui reconnaît, c'est surtout pour la louve qui est bonne mère, qui élève bien ses enfants, qui est nourricière. On trouve ça, d'ailleurs, dans l'histoire de la louve romaine, par exemple, déjà.
Qui élevait Rémus et Romulus, hein.
Voilà, et qui sont à l'origine de la fondation de Rome. On reconnaît au loup aussi une fidélité conjugale, même s'il passe parfois pour un animal lubrique, et une organisation familiale et même clanique très très solide. Et les loups, d'abord, ne s'attaquent pas entre eux, dit le proverbe, et défendent leurs congénères contre des ennemis éventuels.
Charles Pépin.
Je pensais à un truc marrant quand même, c'est que en vous écoutant et avec ce souvenir aussi terrifiant, déchirant de la fin de l'appel de la forêt, c'est qu'en fait, le loup est déchiré entre la entre son attirance pour l'homme, parce qu'il va devenir un loup domestiqué, un chien, et puis la sauvagerie. Et peut-être qu'aussi, si ça nous parle tant, c'est parce qu'on est nous-mêmes déchirés entre cette part sauvage qui est fait retour et un processus de civilisation. Peut-être que cet animal nous dit cela plus que d'autres animaux, au fond.
L'appel de la forêt de Jack London.
Mais par exemple, chez les enfants, je pense que le loup est comme tous ces personnages féroces, ça exprime aussi leur part sombre et d'agressivité. Et c'est ça aussi qu'ils aiment retrouver dans les histoires. C'est la part de violence et d'agressivité qu'il y a en eux.
Michel Pastoureau.
Oui, toute société se doit d'avoir ses peurs. Une société qui n'a peur de rien, ça n'est pas une société. Et c'est pareil au niveau des individus. Donc il faut à la fois des peurs et de l'agressivité. À propos des rapports entre le loup et le chien, aujourd'hui on tend à abandonner l'idée que le chien serait un loup mâle, castré et domestiqué. On voit plus haut et on imagine que les deux animaux descendent d'une sorte d'ancêtre commun. Je ne me mêle pas trop de ce dossier parce que je suis incompétent, mais j'observe que c'est la même chose pour le sanglier et le cochon domestique, par exemple. C'est plutôt un ancêtre commun que la castration des mâles sangliers pour faire des cochons.
Allez, racontez-nous vos peurs du loup réel ou imaginaire au 01 45 24 47000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot. À la réalisation, Stéphanie Texier. Bouge, ça nous rappelle plein de choses, hein, Marie-Laure Sunshine, dans les années 80.
Pas vous, vous étiez trop petit.
Mais non,
vous
avez rappelé ça. On a à peu près le même âge.
Et pourquoi le loup se pourléchait-il les babines ?
Grand bien vous fasse.
C'est sans doute pour montrer à la chèvre qu'elle lui plaisait bien.
Sur France Inter.
10h27 et on s'intéresse ce matin à la peur du loup entre réel et imaginaire avec le grand historien Michel Pastoureau et la psychologue clinicienne Béatrice Copper-Royer.
Maman, il fait tout noir, il y a un loup dans ma chambre.
Je descends à la cave pour remettre le compteur électrique.
Ne t'inquiète pas, petit ours, c'est juste une panne d'électricité. Voilà. Et maintenant, on va chasser ce méchant loup. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Alors, il est où ce loup?
Michel Pastoureau, vous publiez donc un bel ouvrage consacré au loup, le loup qui effraie Petit Ours Brun dans cet extrait. Et une internaute nous dit, la peur du loup me semble encore très présente chez les enfants. Ma petite fille de 4 ans en a une peur bleue. Alors moi, quand j'étais petit, une image effrayante qui m'a marqué, c'est celle du loup-garou. Notamment le film Loup-garou de Londres, avec des scènes de métamorphose déconseillées aux moins de 12 ans. Ça vient d'où le loup-garou? Ces femmes ou ces hommes qui se transforment en loups?
Ça vient de très loin, hein, dans les mythologies antiques. Il y a déjà beaucoup d'histoires de métamorphoses ou de déguisements des loups qui deviennent humains, des humains qui deviennent loups. Mais les vraies histoires de loups-garous quand même commencent au Moyen-Âge. On en trouve trace dans la littérature, dans les croyances populaires aussi. Ce sont des hommes et des femmes qui, certaines nuits, en général 3 nuits par semaine, les nuits de pleine lune, les nuits autour du solstice d'hiver, deviennent loups et se livrent à des activités mortifères, terrifiantes. Alors soit ces humains sont victimes d'un enchantement qui les transforme en loups, ce sont des victimes, soit ils le font volontairement parce qu'ils deviennent créatures du diable, ils font hommage au diable. Mais c'est surtout à partir des 16e, 17e siècles que ces histoires se répandent en liaison avec la sorcellerie. La sorcellerie, contrairement à ce qu'on croit généralement, ce n'est pas du tout une affaire du Moyen-Âge, mais de l'époque moderne. Et ils vont au sabbat, ils servent de monture aux sorcières. Il n'y a pas que les balais qui servent de chevaux aux sorcières qui vont au sabbat. Et on a à la fois là des textes et des images. George Sand elle-même a raconté pas mal d'histoires de loups-garous lié à son Berry natal. Son fils, d'ailleurs, Maurice Sand, un graveur d'immense talent, un peu paresseux, disait son professeur de la Croix, a laissé de très très belles images gravées de loups-garous à un carrefour ou bien adossées au mur d'un cimetière.
Il y a une dimension sexuelle chez le loup-garou, parce que, par exemple, Jeff nous demande, sur notre page Facebook, quid de la connotation sexuelle, il ou elle a vu le loup?
Oui, l'expression n'est pas très très ancienne. On n'en trouve pas trace avant le tournant des 18e, 19e siècles. Voir le loup, globalement, c'est un fait important dans la vie d'un enfant ou de quelqu'un qui est jeune. Alors ça peut être en vrai, et ce sont des peurs pour un certain temps, soit peut-être métaphoriquement, notamment pour les jeunes filles qui ont vu l'homme, qui est un loup pour la femme. Et donc l'expression est née comme ça, mais elle n'est pas très 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 ancienne.
Béatrice Copper-Royer, il y a une dimension sexuelle dans la peur du loup?
Non, je crois pas. Il y a plutôt une dimension de personnages comme ça extrêmement menaçants qui, au moment où l'enfant a 3-4 ans et où son imaginaire est absolument tout puissant, lui fait croire que tout est possible. Et puis ça exprime aussi son insécurité à un moment où il a conscience de son immaturité et de son besoin absolu d'être protégé.
Michel Pastoureau, l'image négative du loup est évidemment diffusée par les fables et les contes, et ça remonte à la plus haute antiquité.
Oui, dans les fables d'Ésope, par exemple, et toutes les fables qui imitent Ésope chez les Grecs, chez les Romains et pendant le Haut Moyen-Âge, c'est une créature négative. Le bestiaire, d'ailleurs, est assez restreint, le bestiaire des fables. Il y a quelques vedettes, le lion, le renard, l'ours, le singe, le coq et le loup, qui est une des vedettes. Et il est n'est jamais pris en bonne part.
Il joue souvent le mauvais rôle.
Il a le mauvais rôle. Soit c'est le méchant, c'est le cas le plus fréquent, soit c'est l'animal berné par d'autres animaux. Ce sera le cas dans le roman de Renard, par exemple, qui est une série de contes d'animaux mis en forme à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle.
Et ces fables, ces contes qui mettent en scène le loup, bah, c'est un instrument d'éducation. Parce qu'on représente un loup menteur, voleur, méchant, lâche, cruel, sanguinaire. Et c'est un instrument pour éduquer et moraliser les enfants.
Oui, il y a une double fin pédagogique. D'une part, faire attention. Le loup est très dangereux, il faut s'en méfier, il faut être prudent. Et d'autre part, conjurer ce danger en essayant de mettre en scène des loups qui finalement sont inefficaces dans leurs intentions très mauvaises.
Ouais. Moi, je crois que les enfants adorent les histoires justement qui leur permettent de maîtriser leurs peurs et surtout de mieux les identifier. Parce qu'au fond, l'enfant a du mal à identifier ses émotions et il passe dans toute cette période, entre 3 et 6 ans, les émotions de l'enfant sont très complexes, très ambivalentes, notamment par rapport à ses parents. Il est dans une espèce de rivalité avec le parent du même sexe. Et donc, toutes ces émotions très, très complexes, il aime, au fond, les simplifier dans les histoires où il y a le gentil, le méchant. Voilà, c'est assez... Les contes, c'est comme ça. C'est noir et blanc, quoi.
Tiens, écoutons quelques enfants qui parlent de leur peur du loup. C'est en 1967, au micro de Marguerite Duras.
Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui te fait peur, Sophie?
J'aime jouer, ça me rend joyeux. Et qui me fait peur, c'est la nuit. Parce que avant de m'endormir, des fois, il fait tout noir.
Et toi, qu'est-ce qui te fait peur?
C'est le loup. J'ai peur.
Le loup, ça n'est...
Non, pendant la nuit, dans la cave, et ben, ils existent parce que eux, ils sont toujours dans les caves.
Oh, pas toujours. Dans ma cave, il y en a zéro. Même pas des rats. Les loups, c'est dans la forêt. Jamais été dans la forêt.
Moi, j'y étais, et puis j'ai jamais vu de loup.
Béatrice Copper-Royer, les loups, c'est dans la forêt, oui. Mais c'est dans les têtes des enfants
c'est
aussi.
C'est dans la tête des enfants, et c'est ça que je trouve formidable avec les enfants, notamment de cet âge-là, c'est que tout est possible. Et évidemment qu'il peut y avoir un loup dans la cave, dans la tête d'un enfant de 3 ans, et même derrière son rideau, et même sous son lit. Donc tout est possible. Et ce qu'il a besoin à ce moment-là, c'est que les parents lui rappellent qu'il est en sécurité et qu'ils sont là pour le protéger.
À partir de quel âge apparaît la peur du loup et des animaux plus généralement chez les enfants, et à quel âge ça devrait normalement se terminer?
Elle apparaît vers 2 ans et demi, 3 ans, enfin il y a des nuances, mais en gros autour de 2 ans et demi, 3 ans. Et d'abord au moment où il maîtrise bien le langage. Et puis elle se termine en principe au moment de l'âge de raison, hein, justement, parce que l'âge de raison, 7 ans, c'est quand l'imaginaire régresse et que le raisonnement est là pour faire taire ce genre de peur.
Alors très souvent, la peur du loup est associée à la peur du noir.
Oui.
Comment s'explique cette peur du noir?
La peur du noir, bah, c'est la peur, alors là, Michel, vous allez nous le dire, c'est la peur des ténèbres, c'est la peur de la mort, en gros, hein, c'est la peur d'être complètement, pour l'enfant, le noir, c'est le drame absolu, parce que c'est la solitude, et la solitude, il supporte pas.
Michel Pastoureau, je rappelle que vous êtes un grand historien des couleurs, et que vous avez consacré un magnifique ouvrage à la couleur noire.
Oui, comme toutes les couleurs, le noir est ambivalent, il y a un bon et un mauvais noir, en tout cas dans les sociétés occidentales. Le mauvais noir, bien sûr, c'est celui de la mort, de la nuit, du monde souterrain, de la faute, du péché. Mais le bon noir, c'est celui de l'humilité, de la dignité, de l'élégance, du luxe. On vit sur ce double code, hein, nous, aujourd'hui. Alors évidemment, dans la peur du loup, dont on fait d'ailleurs dans l'imaginaire un animal noir, alors que sa robe est très très rarement noire. Un vrai loup, c'est gris, c'est roux, c'est tacheté, c'est fauve, c'est brun de différentes nuances. Mais vraiment noir, non, ça c'est l'imaginaire. Mais je le répète, l'imaginaire, ça existe. L'historien doit étudier l'imaginaire des sociétés dont il a la charge.
Charles Pépin. D'ailleurs, il y a ce conte amérindien que vous connaissez sûrement, qu'on raconte beaucoup aux enfants. C'est le combat entre deux lions. Il y en a un qui est justement noir, méchant, agressif, sauvage, féroce. Et l'autre qui est blanc, c'est la pureté, il est gentil, il est pacifique, il est aimant. Et alors, ils se battent. Et puis, c'est très, très dur. Et alors, l'enfant demande, mais alors... qui gagne, le loup blanc ou le loup noir? Et là, il faut répondre aux enfants, celui qui gagne, c'est celui que tu nourris.
D'ailleurs, Charles Pépin, que vous inspire dans vos choses vues cette semaine? Vous remplacez notre ami Christophe André. Ça vous inspire quoi, toutes ces histoires de loups, de peur du loup?
Bah, cette troublante distinction entre le réel et l'imaginaire. En fait, on pourrait se demander de quoi nous avons peur au juste lorsque nous avons peur du loup. Du loup réel ou de tout ce qu'il symbolise? Qu'est-ce qui nous angoisse le plus? La réalité ou ce que nous projetons sur elle? Toutes ces fictions, ces fantasmes, ces représentations qui sont autant de filtres entre elle et nous. L'homme au loup est un des patients dont Freud tente d'interpréter le cauchemar qu'il faisait enfant. Il est observé par 6 ou 7 loups, des loups à queue de renard, qui se tiennent sur une branche prêts à le dévorer. À lire Freud, il semble que les deux pistes soient intéressantes. Première piste, nous avons peur des loups bien réels, qui vivent en meute et ont des dents pointues. Même si nous ne rencontrons pas tous les jours, nous avons hérité cette peur de nos ancêtres qui y étaient réellement confrontés. Ce Freud-là est darwinien. Dans nos peurs les plus profondes, dans nos frayeurs d'enfants, nous rejouons les peurs des anciens, nous héritons de milliers d'années d'évolution. Seconde piste, nous avons peur moins du loup réel que de tout ce qu'il symbolise, la sauvagerie, celle des loups et celle au fond de nous, la sauvagerie en nous que nous ne voulons pas voir, qui nous repousse et nous attire en même temps, la mort bien sûr, et la sexualité. Ah. Mais une sexualité agressive, une sexualité de prédateur, la violence du père qui prend la mère, qui la prend par derrière, comme le font les chiens ou les loups. Le cauchemar de l'homme au loup dit alors, selon Freud, l'effroi devant la puissance sexuelle. Jeune enfant, l'homme au loup aurait surpris ses parents en train de faire l'amour, scène primitive qu'il aurait reçue comme une violence imposée à la mère. Le long museau du loup, c'est le phallus du père, et toutes ses dents pointues, l'angoisse de castration du fils. Cette interprétation freudienne a été moquée, notamment par Gilles Deleuze, refusant de réduire la charge fascinante et onirique du loup, ou plutôt de 6 ou 7 loups, au simple visage d'un papa. Reste que Freud a ouvert un champ immense. Ce n'est bien sûr pas simplement en tant que le loup nous fascine. Le monde, nous les animaux humains, nous le recevons symboliquement. Ce n'est pas le réel qui nous fait trembler, mais le réel fantasmé, le réel que nous rêvons, que nous délirons, que nous vantons, que nous inventons. Nous, animaux humains, nous n'aurons plus jamais de rapport direct au réel. Cet éclat dans le ciel, par exemple, me parle d'autre chose. Il me parle de l'amour ou de Dieu, de mon enfance peut-être. Il me parle de la vie que je n'aurai pas ou de celle que je n'ai plus. Il me parle d'autre chose que du ciel. D'ailleurs, que reste-t-il du ciel? Regardez, cher Ali, c'est même vrai de vous. Quand je vous rencontre, je rencontre d'abord tout ce que je projette sur vous et qui m'est inspiré par votre apparence, votre émission à France Inter, votre petite veste cintrée. Je rencontre tout cela bien avant de rencontrer votre réalité. D'ailleurs, la rencontrerai-je un jour? Et vous, me rencontrez-vous en réalité? Vous rencontrez d'abord toute une série de représentations attachées à la figure du philosophe aux cheveux longs, vêtu d'une chemise en jean ouverte et venu du centre de Paris. Les autres animaux n'ont pas ce rapport symbolique au réel, ou alors beaucoup moins. La vie nous effraie pour cette même raison qu'elle nous attire. La vie réelle, vous le disiez, est tout entière tissée de symboliques, d'imaginaires, impossible de les démêler. Tout est très rigoureusement entrecroisé. Nous avons ainsi peur du loup, qui est à la fois réel et imaginaire, à la fois présence et symbole d'autre chose, à la fois présence et présence d'une absence. Nous sommes ambivalents, tant cette peur du loup nous met aussi en joie. Nous sommes angoissés et rassurés à la fois, angoissés de ne pas savoir exactement l'objet de notre peur, mais rassurés aussi, car la vie est tellement plus belle lorsqu'elle se refuse à être simplement ce qu'elle est. Et c'est cette vie-là, la vie rêvée, la vie cauchemardée aussi, c'est cette vie-là qu'il nous faut apprendre à apprivoiser.
La vidéo des choses vues de Charles Pépin, c'est à retrouver sur la page Facebook de Grenoble vous fasse. Et vous restez évidemment avec nous, Charles Pépin. Question témoignage sur le loup au 01 45 24 7000. Sur le sofa bleu et noir, y'avait pas l'ombre dans les arbres.
Juliette Armanet interprétait Cool Cat et ça vous plaît ça, hein, Charles Pépin?
Oui, je trouvais ça, ouais. Ça beau.
Voilà.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h44 et on s'intéresse ce matin à la peur du loup entre réel et imaginaire avec le grand historien Michel Pastoureau et la psychologue clinicienne Béatrice Copper-Royer. Bonjour Jean-François Darmstetter. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes, vous, le président de l'association Férus. C'est une association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs. Alors, vous militez pour la cohabitation entre les troupeaux domestiques et les prédateurs comme le loup.
Exactement.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que le loup, là, on est peut-être un peu loin de l'imaginaire, on est sur le réel, sur le concret. Le loup est un prédateur, et lorsque le loup est à proximité des troupeaux, eh bien, il peut s'attaquer aux troupeaux. Donc, il faut arriver à la cohabitation, il faut protéger correctement les troupeaux.
Comment vous vous y prenez
Ah ben c'est assez. Nous avons une action qui s'appelle Pastoralou, qui existe depuis maintenant 20 ans, et qui consiste à mettre des bénévoles sous les estives avec les éleveurs et les bergers, et donc apporter une présence continue auprès du troupeau. La présence de l'homme auprès d'un troupeau fait que le loup n'attaque pas.
Alors expliquez-nous comment fonctionne un loup. Hein. Le loup, c'est une espèce sociale dont les populations sont structurées en groupes familiaux appelés meutes, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est une espèce sociale, ce sont des meutes. Le loup est un animal extrêmement intelligent, et donc, et bien entendu, c'est un animal opportuniste. Il est plus facile pour lui d'attraper des animaux domestiques comme des moutons qui non protégés, qui sont à sa merci, plutôt que d'aller vers ses proies sauvages naturelles.
Comment se reproduisent les loups ?
Ah ben, ils se reproduisent une fois par an. Au sein de la meute, il y a un couple reproducteur unique. C'est le couple dominant, le couple alpha. Et les autres loups ne se reproduisent pas. Il y a une castration psychologique qui se passe.
Comment vous dialoguez avec les éleveurs de moutons, de brebis, qui s'opposent aux loups hein, à la montagne ou dans certaines campagnes en France? Comment vous dialoguez?
Nous sommes arrivés à établir des passerelles, ce qui n'était pas évident, hein, entre les protecteurs du loup et les bergers et les éleveurs, pour qui le loup est quand même un vrai problème. Donc nous dialoguons avec les éleveurs qui, bien entendu, ne souhaitent pas que leurs moutons soient tués par des loups, mais qui également reconnaissent au loup le droit de vivre libre dans la montagne.
Alors, un internaute m'interpelle. Êtes-vous favorable à la réintroduction du loup? C'était ma question tout à l'heure. Il me dit, c'est quoi cette question hanounesque, en référence à Cyril Hanouna. Le retour du loup est naturel, m'écrit-il avec des majuscules. Vous alimentez les rumeurs. J'ai eu tort de parler de réintroduction du loup, Jean-François Darmstetter?
Oui, bien sûr, vous avez eu tort. Le loup n'a pas été réintroduit. Le loup est revenu naturellement depuis l'Italie.
Michel Pastoureau.
Oui, il s'est réintroduit tout seul, le loup. Le problème, c'est que, évidemment, ça suscite beaucoup de polémiques. Les historiens ont été pris à partie. D'ailleurs, mon collègue Jean-Marc Morisseau de l'Université de Caen, qui est le grand spécialiste du loup sous l'Ancien Régime en France et qui a mis en valeur presque 10 000 cas d'attaque du loup sur l'être humain, s'est fait reprocher de mentir par les partisans du loup. Le loup n'attaquerait jamais l'être humain. C'est vrai des loups d'aujourd'hui sans doute, ce n'est pas vrai des loups d'autrefois.
Bruno nous dit sur notre page Facebook, l'historien Jean-Marc Morisseau fait des recherches historiques sur les loups et selon lui, plus de 10 000 personnes sont mortes à cause des loups. Michel Pastoureau.
Oui, tous les documents d'histoire vont dans le même sens. Il faut accepter l'idée que la vie des campagnes au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle en France et dans les pays voisins, ce n'est pas la vie des campagnes d'aujourd'hui et que les loups d'aujourd'hui ce ne seront pas les loups d'autrefois. Je suis un peu inquiet parce que quand j'étais étudiant ou jeune chercheur, ça allait de soi, tout le monde comprenait ça, que on ne peut pas étudier ni comprendre le passé à l'aune des savoirs, des connaissances, des sensibilités du présent, des morales du présent même. Aujourd'hui, c'est en train de disparaître, cette précaution pour éviter les anachronismes, et ça m'inquiète un peu.
Farid, bienvenue, vous appelez de Poitiers. Vous êtes géographe, spécialiste du retour du loup en France. Alors évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de réintroduction du loup, et c'est bien sûr une erreur.
Oui, c'est une erreur assez fréquente, rassurez-vous, ça a dû faire bondir en effet beaucoup de vos auditeurs. En fait, le loup est revenu naturellement d'Italie au début des années 90, parce que justement en Italie, il n'avait pas été exterminé. Et donc à partir de là, il est d'abord arrivé dans le Mercantour, et à partir de là, il a recolonisé tout le territoire français. Et comme un loup, quand il est en phase d'expansion, vous avez parlé du groupe familial, mais quand il y a des jeunes qui grandissent, eh bien ils se libèrent de ce groupe, ils peuvent parcourir plus de 80 km par jour, et il y a même des records comme quoi des loups suivis ont fait 1500 à 2000 km en quelques semaines ou quelques mois, ce qui fait que potentiellement tout le territoire français peut être colonisé. Une toute petite précision par rapport à ce qu'a dit l'historien Michel Pastoureau, il a évoqué qu'il n'existait pas de loup noir. Alors en effet, en Europe, le loup noir n'existe pas ou n'existe plus. Il existe encore en Amérique du Nord, notamment dans certaines forêts, et par le passé, comme il y avait plus de loups, il est possible que des loups noirs aient pu exister en Europe.
Mais le travail de Michel Pastoureau se concentre essentiellement sur l'Europe. Farid, vous comprenez la démarche de l'association de Jean-François Darmstetter, l'association Ferus, qui milite pour la cohabitation entre les troupeaux et les prédateurs comme le loup?
Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce qui permet aussi de légitimer cette action, puisque, en effet, le fait de protéger une espèce, un peu un emblème de la biodiversité qui pose, comme l'a très bien dit Jean-François Darmstetter, des problèmes objectifs aux éleveurs, il est vrai qu'il s'agit de concilier et la prise en compte de l'environnement et des activités humaines. Mais des activités humaines, il faut bien savoir que l'élevage en France, qu'il soit en zone de montagne, en zone confrontée au loup ou ailleurs, est en grande difficulté, loup ou pas loup. Et il est probable que certains groupes comme Lactalis, par exemple, soient plus grands prédateurs que le loup.
Marie-Laure Zonshine, de Femmes Actuelles.
Ouais, juste un point, on peut rappeler qu'il existe un plan loup, ça a été mis au point par, à l'époque, Nicolas Hulot. Donc le plan loup 2018 prévoit d'atteindre 500 loups d'ici 2023. Vous l'avez rappelé en début d'émission, Ali, tout à l'heure. On en est à 430 aujourd'hui. Il y a eu une consultation publique sur la question et on s'est rendu compte que les trois quarts des interventions insistaient sur l'importance de la préservation du loup face à un quart donc qui soutenait plutôt les éleveurs face à la prédation.
Jean-François, Farid, qu'est-ce que vous pensez de ce plan loup, Jean-François?
Mais écoutez, le plan loup, il n'a pas été mis en place par Nicolas Hulot, mais il a été mis en place bien avant, d'une part. Et d'autre part, vouloir limiter le nombre de loups sur le territoire, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Donc, par contre, effectivement, il faut des moyens de préservation, il faut des moyens pour mettre en place une cohabitation pérenne avec l'élevage. Mais limiter le nombre d'animaux sauvages, franchement, ça ne correspond absolument à rien.
Farid. Alors,
ce à quoi fait allusion Jean-François Mcheter, c'est notamment les tirs de loups, les éliminations de loups. Il y a à peu près 430 loups en France et on se dirige vers l'élimination de 10 à 12% de loups par an légalement, je dis bien légalement. Alors il ne s'agit pas forcément d'être contre l'élimination du loup, mais en fait on s'aperçoit que l'élimination et les tirs de loups n'améliorent pas la situation de la cohabitation. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à éliminer autant de loups, eh bien les dégâts continuent à augmenter. C'est donc que ce n'est pas le bon moyen pour faire réduire réduire cette pression des loups et qu'il faut, comme l'a dit tout à l'heure M. Darmstetter, plutôt investir toujours sur les mesures de protection et la recherche qui va dans ce sens.
Michel Pastoureau.
Oui, ces plans loups laissent perplexe parce que on protège l'animal, on voudrait qu'il se reproduise davantage, mais en même temps on autorise l'abattage d'un certain pourcentage. Il y a une espèce de contradiction qui interroge bien sûr.
Merci beaucoup à Jean-François Darmstetter et merci Farid Benhamou, vous nous avez appelé spontanément ce matin. Merci beaucoup.
Grand-mère, comme vous avez de grands bras. Et pour mieux t'embrasser, mon enfant. Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant.
Alors je dois avouer que le petit chaperon rouge lu par Lolé Bellon, c'est assez effrayant,
c'est
Charles
très,
Pépin.
Très peur, hein.
Ça fait assez peur. Il nous a tous effrayés, le loup du petit chaperon rouge. Mais c'est plus vraiment le cas, on le disait tout à l'heure. Le loup s'est assagi, il ne fait plus peur, Michel Pastoureau, à l'image du loup de Tex Avery.
Oui, voilà, c'est un loup magnifique, celui de Tex Avery, Blitzwolf, dans le dessin animé Le Petit Chaperon Rouge, je ne s'appelle pas comme ça dans la version anglaise, 1942. C'est un loup très lubrique qui rencontre la fillette, il se fait donner l'adresse de la grand-mère, il va avant la fillette avec l'idée de sans doute les violer avant de les dévorer toutes les deux, et puis il tombe sur une grand-mère qui est encore plus lubrique que lui, et il est terrifié, c'est désopilant.
Dans les magasins de jouets, je m'y promenais là ce week-end, beaucoup de peluches de loups, absolument adorables et pas du tout effrayantes, Béatrice Copper-Royer.
Oui, mais parce que je vous dis, aujourd'hui, le loup est complètement réhabilité dans l'imaginaire des petits et c'est un gentil loup tout doux et tout futé, rusé, un petit peu bête parfois, un petit peu ridicule. Donc effectivement, il est en train de changer là dans l'imaginaire des enfants.
Marie-Laure Sunshine.
Oui, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, on se rend compte, beaucoup d'instituteurs en école primaire utilise le loup pour parler des stéréotypes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup d'ateliers comme ça autour du loup. Mais il me semble que de toutes les façons, les époques apportent aussi leur lot de nouvelles peurs, de nouvelles représentations dans l'imaginaire des enfants. Et c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, les enfants qui sont assez confrontés à la réalité, malheureusement, par exemple, la peur des terroristes, elle remplace la peur du loup. Hein. Donc, c'est moins. Je préfère la peur du loup.
Dany nous dit par courriel, je vis dans les Alpes maritime, dans un endroit isolé en moyenne montagne, et il nous arrive d'entendre les loups la nuit. Leur cri est fascinant, comme venu d'un autre âge, mais même pas peur, surtout lorsque l'on vit avec un homme qui s'appelle Gévaudan. Michel Pastoureau, rappelez-nous rapidement ce qu'était la bête du Gévaudan.
Alors c'est une affaire qui se passe pas du tout au Moyen-Âge, mais en plein 18e siècle, en plein peur du loup, sous Louis XV, dans le sud du Massif central, et pendant 3 ans, une bête non identifié, assimilé à un loup, mais un loup monstrueux, fait des ravages considérables, aurait tué plus de 100, peut-être 120 personnes, multipliant les attaques. Ce dossier très intéressant pour l'histoire de la presse, parce que on s'aperçoit que les nouvelles circulent extrêmement vite dans ces années 1760. La bête attaque une bergère en fin d'après-midi, un jour. Le lendemain, toute l'Europe est au courant par les nouvelles qui circulent, par le bouche à oreille, bien sûr, plus tard les gazettes, les gravures. C'est l'occasion d'ailleurs pour l'étranger de se moquer de la France et de Louis XV, le roi qui n'arrive pas à exterminer ce fléau.
Bonjour Marjorie.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Dordogne. Alors vous avez une petite fille de 6 ans qui est fascinée par les loups.
C'est ça. Et elle est tellement fascinée par les loups qu'il a fallu lui faire sa chambre avec la décoration de loups, enfin toutes des choses comme ça.
Des photos, c'est ça, des photographies, des dessins
Pardon ?
Avec des photographies, des dessins de loups, des posters.
Alors il y a des dessins un petit peu plus dans l'imaginaire, notamment un loup blanc qui vole, mais il y a aussi des photos, des photos de vrais loups. Qu'elle a voulu dans sa chambre, et elle est tellement fascinée qu'elle aimerait, elle, être un loup. Elle voudrait pouvoir un jour se transformer en loup.
Et pourquoi ?
Et ben pourquoi? Parce qu'a priori, pour elle, ça symbolise la liberté, la nature, les grands espaces.
La puissance, et, peut-être aussi.
Oui, aussi, parce qu'elle dit aussi souvent qu'elle est musclée, qu'elle voudrait être musclée voilà. comme un loup. Puis elle veut être une loup, d'ailleurs.
Elle a quel âge, votre fille? Elle a quel âge?
6 ans.
Elle a 6 ans, ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Béatrice
Caparoyer? Je pense qu'elle est encore un peu dans cette période oedipienne où les petites filles peuvent, comme ça, vouloir se récupérer de la puissance qu'elle croit ne pas avoir. Et voilà, peut-être cette identification comme ça au loup est, pour le coup, un peu sexuelle.
Et est-ce qu'elle est louveteau chez les scouts?
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, hein, Marjorie, de nous avoir appelé. Pour terminer, Michel Pastoureau, beaucoup, beaucoup d'expressions de la langue française qui utilisent la figure du loup. Crier au loup, marcher à pas de loup, se jeter dans la gueule du loup, un jeune loup, quand on parle du loup, avoir une fin de loup, être connu comme le loup blanc, entre chien et loup, mon petit loup. On utilise ces expressions tous les jours. Elles racontent quoi, ces expressions?
Elle rappelle un passé ancien où le loup était omniprésent à la fois dans la vie quotidienne et dans le monde des symboles et de l'imaginaire. Le loup est une des vedettes de ces expressions, comme il est une des vedettes, même la vedette de la toponymie, des noms de lieux, et plus encore d'ailleurs des noms de lieux dits et de hameaux que de communes. Mais en France et dans les pays voisins, il est présent partout sur le sol par le biais de ces noms de lieux.
Vous l'aurez compris, je recommande vivement la saine lecture de l'ouvrage de Michel Pastoureau, publié aux éditions du Seuil, Le Loup, une histoire culturelle. J'espère que vous reviendrez nous parler d'autres animaux, Michel Pastoureau. Merci Béatrice Caparoyer.
Merci.
Peur du loup, peur de tout, c'est publié en poche, au livre de poche, c'est ça?
Au livre de poche.
Merci beaucoup. Demain, nous attendons toutes les questions des enfants sur le cerveau. Vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces peuvent appeler au 01 45 24 7000 et interroger le professeur en psychologie cognitive, Olivier Houdet. Tous vos enfants sauront presque tout sur le cerveau. À la technique ce matin, Pierre-Yves Derolin et Maxime Ingrand.